carrefour des arts. Théâtre et patrimoine, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, René de Obaldia est né en 1918 et il a été élu à l'Académie française à 81 ans en 1999. Il reste aujourd'hui encore aussi jeune d'esprit que son œuvre, tout entière placée sous le signe d'une poésie qui se sert de l'humour, de la dérision, de la parodie et surtout de la force créatrice de l'imaginaire pour bousculer au travers des mots et sans avoir l'air d'y toucher bien des choses établies. Avec nous pour évoquer l'homme et son œuvre, Thomas Ledoirec, l'un des metteurs en scène les plus créatifs et les plus éclectiques de la jeune génération. Thomas Ledoirec, qui est celui qui a le plus fait ces dernières années pour mettre en valeur sur scène l'œuvre d'Obaldia. Il vient ainsi de monter au Théâtre des Mathurins son quatrième spectacle Obaldia. Il s'agit de la reprise d'une comédie intitulée Grâce matinée, interprétée par Cyrielle Claire et Marie Lecam. L'action se passe dans un cimetière, près d'une voie ferrée, deux squelettes de femmes, Babette et Artémis, qui font des escapades hors de leur cercueil, discutent dans l'attente indéfinie et difficilement supportable de ce que sera pour chacune d'elles le jugement dernier rendu par le sacré tribunal. Thomas Ledoirec, bonjour.
Bonjour.
Il y a quand même une chose étonnante avec Obaldia, que ce soit un grand auteur de théâtre et que finalement, si on se dit les choses comme elles sont en France, il est plutôt connu parce que l'on fait de son œuvre dans les écoles à travers sa poésie, non ?
Oui, il est surtout connu par les Innocentines qu'on travaille à l'école. Hein. Beaucoup de ses poèmes sont travaillés par de jeunes écoliers. Connu aussi par certaines qui resteront, je pense, éternelles et universelles, comme Du vent dans les branches de sassafras, comme Genousy.
Monsieur Kleps.
Monsieur Kleps et Rosalie. Connu, mais finalement peu monté. Alors après, c'est toujours le problème, c'est que c'est un auteur qui est donc toujours vivant, et qu'on a souvent très vite enterré. On le croit souvent mort. Moi, quand je parle d'Obaldia autour de moi, je dis, mais là, je viens de le quitter hier. Mais, ah, il est vivant. Et c'est étonnant, en fait, les réactions. C'est qu'on l'imagine déjà mort. C'est terrible pour René, parce que je trouve qu'il est bien vivant et il écrit encore.
Et il monte même sur scène. Hein.
Et il monte sur scène, et il joue sur scène. Il m'avait même fait une tournée. Parce qu'il a fait un spectacle autour de lui, de son œuvre, une espèce d'ovni. Et il va le tourner à travers la France.
À 91 ans. Hein.
À 91 ans. Maintenant,
mais les Innocentines, il y a quand même là-dedans des choses étonnantes. Je pense à ces deux vers. C'était l'heure divine où, sous le ciel gamin, le jet gélatineux geignait dans le jasmin.
Il aime jouer avec les mots. Il aime. Il y a toujours plusieurs niveaux de lecture chez Obaldia. Savoir qu'il y a toujours un premier degré qui est en fait souvent assez poétique, assez littéraire. En fait, et puis après, il s'amuse avec les sonorités. C'est musical, c'est gai. C'est toujours, il y a toujours un fond, mais ça reste toujours, la forme est gaie.
Vous vous souvenez d'un poème des Innocentines
Dimanche.
À dimanche, bah tiens, allons-y alors.
Charlotte fait de la compote, Bertrand suce des harengs, Cunégonde se teint en blonde, Épaminondas cire ses godasses, Thérèse souffle sur la braise, Léon peint des potirons, Brigitte s'agite, Adhémar dit qu'il en a marre, la pendule fabrique des virgules, et moi dans tout chat, ben moi je ne bouse pas, sur ma langue j'ai un ça.
Voilà, ça c'est tout Obaldia. Votre collaboration avec lui a commencé en fait avec la découverte de la pièce que vous citiez tout à l'heure, le vent dans les branches de Sassafras.
Ouais, tout a commencé avec Du vent dans les branches, parce que je venais de monter le Dindon de Feydeau, qui avait eu un beau succès au Tristan Bernard. On avait fait toute une saison. Et on me conseille de lire Obaldia. Je ne connaissais pas. Écoute, il a la même folie que toi. Je pense que c'est un univers qui te correspondra. Je lis, effectivement, je tombe amoureux de la pièce, du texte, de l'imaginaire d'Obaldia, de son humour, de sa folie aussi. Une vraie folie. Et comme moi, comme je le pense, c'est qu'il n'y a pas toute folie a un sens quand il y a derrière une vraie rigueur. Et il y a à la fois cette folie et une rigueur. Et donc, je le rencontre, ça prend très vite entre nous. Depuis Du vent dans les branches de Sassafras, on s'est liés d'amitié tous les deux. Et on se voit régulièrement, on se voit tous les mois, tous les deux mois, on déjeune ensemble. Depuis maintenant, ça fait plus de 10 ans, ça fait 11-12 ans maintenant qu'on se connaît. Et j'ai toujours beaucoup de joie à retrouver cet homme et à parler avec lui. Je suis toujours fasciné de voir ces hommes qui ont traversé un siècle, en fait, quelque part, et qui ont tellement de choses à nous apprendre. Et on sera, moi, je serai très, très malheureux quand il y aura plus. Ce sont des passeurs, pour moi, en fait. Ce sont des gens qui nous amènent, qui nous amènent dans d'autres univers qu'on a perdus. On perd beaucoup de choses. Hein. Ça va tellement vite aujourd'hui. J'espère que voilà, plus longtemps on restera auprès de ces gens-là, plus on a à apprendre.
Alors le vent dans les branches de Sassafras, ça date de 1965. Il faut dire qu'il avait été aidé à la création par la présence d'un, ce qu'on appelle, toujours de façon un peu bête d'ailleurs, un monstre sacré qui était là, c'est Michel Simon.
Ouais, ça, je pense que ça a beaucoup apporté au succès de la pièce.
Alors avant, il avait écrit Génousie, qui a été son premier succès.
Le son défunt, premier fait d'armes.
Le défunt, le babysitter.
À la Comédie Française, je crois, Génousie, au TNP. TNP de Jean Villard, enfin, ça a été vraiment un début fracassant.
Avec Jean Rochefort, qui était tout jeune à l'époque.
Ouais, tout jeune. Ouais.
Donc il y a eu Le Défunt, la babysitter, et alors après Le Vent, il y a eu Les Bons Bourgeois, Pour ses beaux yeux, Grâce matinée, Monsieur Kleps. Pour vous, les pièces les plus marquantes là-dedans, si on peut faire une hiérarchie, c'est quoi? Si on doit retenir, enfin.
Je pense que celle qui est Du Vent dans les branches de Sassafras, c'est vraiment, à mon avis, sa pièce phare. Après, Les Impromptus. Ces impromptus, ouais. C'est là où il excelle le plus, parce que c'est des petites formes théâtrales en fait, très courtes et qui sont jouées et rejouées partout dans le monde, aussi bien travaillées dans les cours de théâtre. Enfin, moi, il n'y a pas un seul élève de théâtre qui n'a pas, à un moment donné, travaillé du Obaldia à travers ces impromptus. Et c'est énormément monté par les amateurs, par les professionnels. Non, c'est vrai que Les Impromptus, c'est vrai, malgré tout, à mon avis, incontournable. Et après, dans ces grandes pièces, effectivement, on peut parler effectivement je parlerai du Défunt aussi, c'est aussi une forme d'impromptu, Le Défunt. C'est un gros succès. Génousie, mais Kleps et Rosalie aussi.
Oui, qui avait été créé par Michel Bouquet.
Oui, tout à fait.
Donc Michel Simon, Michel Bouquet, et puis le tout jeune Jean Rochefort. Les distributions comptent quand même.
Oui, il a eu la chance d'être créé par de grands acteurs.
Mais quand vous veniez donc de mettre en scène un Feydeau avec tout ce que ça a de mécanique extraordinairement précise, de Feydeau à Obaldia, comment on peut
faire? C'est pas le même univers parce qu'il y a la dimension poétique n'existe pas du tout chez Feydeau. Alors que Obaldia, on peut pas passer à côté de cette musicalité des mots d'Obaldia. Des jeux de mots, ce que finalement pratique très peu Feydeau. Il transcende comme Feydeau peut le faire, mais lui par la situation, on transcende la réalité chez Obaldia. C'est qu'à un moment donné, on va déraper et ça commence à délirer. Et moi j'aime ça parce que ça vient en fait progressivement et petit à petit ça embarque les spectateurs.
Et c'est jamais gratuit.
Non.
Il y a toujours un sens en réalité.
Complètement. On n'est pas dans l'absurde, loin de là. Hein. C'est pas du tout. On a tendance à marier Obaldia et Ionesco, mais moi je pense qu'ils n'ont rien à voir l'un et l'autre.
Bien que tant les meilleurs amis du monde. Hein.
Oui, même s'ils s'entendaient très très bien. Et effectivement, il y a une famille, mais c'est vraiment deux cousins éloignés, à mon humble avis.
Et Obaldia aime dire qu'il est très proche d'Unamuno comme démarche. Et cette démarche espagnole où on peut être à la fois extrêmement sérieux et très drôle, parce que Miguel de Unamuno est quand même celui qui a écrit Le sentiment tragique de la vie et qui, à côté, a écrit un précis de cocotologie. Vous savez ce que c'est que la cocotologie?
Non.
Ben, c'est l'art de fabriquer des cocottes en papier.
Ah.
Et Unamuno, donc, l'un des plus grands esprits espagnols du XXe siècle, est aussi un grand expert en cocotologie.
Écoutez, je ne connais pas ce talent-là à René, mais oui, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se prendre au sérieux, René de Obaldia. Il a beaucoup de mal à se prendre au sérieux. Ça se sent dans sa littérature, même dans ses romans, dans sa poésie et dans son théâtre. Même s'il aime aborder des sujets profondément sérieux, puisqu'en fait, tout le hante, enfin, son époque le hante, et puis il est assez, finalement, désespéré, cynique, pas trop cynique, mais triste, enfin, oui, triste de voir comment son époque évolue, mais malgré tout, il ne pourra jamais s'empêcher de mettre de l'humour partout.
Mais derrière, le fond est grave. Hein. Je crois que c'est lui qui reprenait cette définition que Novalis donnait du théâtre. C'est la réflexion active sur l'homme et sur sa folie. Donc, vous employiez vous-même tout à l'heure le mot de folie.
Ah, il y a une vraie folie chez Obaldia. Ça l'obsède. Enfin, la folie chez des hommes l'obsède. Et il aime la mettre en scène, en fait, à travers ses textes. Parce qu'ils sont tous un peu fous à un moment donné, ces personnages.
Alors, comment travaille-t-on avec lui? Puisque vous, c'est la quatrième fois que vous travaillez avec lui. Est-ce que c'est quelqu'un de facile, quelqu'un de...
Moi, je trouve que c'est un homme charmant, très facile. Moi, j'ai jamais eu de problème en fait dans le travail avec lui. Alors, il est très.
Il s'implique ou il s'implique pas?
Oui, il s'implique énormément.
C'est-à-dire, par exemple, pour la Grâce matinée.
Pour Grâce matinée, oui, il est présent. Il vient assister au début à toutes les représentations, hein, sur les. Il est très présent dans les premières représentations. Il a toujours son mot à dire, même auprès des comédiennes, il s'implique, il leur donne même des indications de jeu. Même, on n'est pas d'accord.
Il fait votre boulot, quoi.
Oui, oui, il pourrait faire mon boulot. Hein. On n'est pas d'accord souvent, hein. Ça nous arrive d'être...
Par exemple, sur quel point, quel genre de choses qu'on comprenne un peu, quelle est sa démarche à lui, qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui le...
Il a des idées très arrêtées, c'est normal, sur une pièce, surtout quand elle a déjà été montée, ce qui est le cas pour Grâce Matinée, mm-hmm. Surtout en plus que c'est une pièce qu'il a créée lui-même au départ pour la radio, donc tout d'un coup de la mettre en fait en scène au théâtre. Et, donc moi, je bouscule souvent en fait, parce que ses idées ne sont pas les miennes, forcément. D'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt, ce que j'essaye toujours d'expliquer à René... et aux auteurs en général que j'ai la chance de monter, c'est que c'est intéressant d'avoir une autre vision de son texte. Donc souvent, on confronte nos deux visions et on tombe d'accord, pas tout le temps. Là, moi, c'est vrai que j'ai eu une vision, mais qui est plus lugubre, peut-être plus squelettique de sa pièce que lui aurait pu avoir, puisque lui aurait aimé quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus coloré. Alors que moi, je suis allé beaucoup plus dans le côté très fantôme. Je me suis plus inspiré de l'univers d'un Tim Burton aujourd'hui, où tout d'un coup, en fait, le squelette, aujourd'hui, est un objet de mode, est un accessoire de mode. C'est que maintenant, même les petites filles de 7 ans arborent des squelettes sur leurs t-shirts, sur leurs boucles d'oreilles, sur leurs colliers, sur leurs bracelets. Ce qui n'était pas le cas il y a encore, quand il a écrit la pièce, il y a 15 ans, plus que ça même. Mais donc, l'époque change, mais... alors moi, je suis plus à l'écoute de cette époque. Et c'est vrai que tout d'un coup, avec le succès des Pirates des Caraïbes, il y a des squelettes partout maintenant. Et moi, j'aimais bien ce côté, ces squelettes, je les ai mis en avant, je les ai mis en valeur. Les squelettes sont présents sur scène et sont presque vivants. Et c'est ça.
Oui, y compris dans un striptease d'ailleurs. Oui, c'est étonnant.
Et ça, on n'était pas du tout d'accord au départ. Donc on a dû batailler tous les deux pour cette vision de la pièce. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que Grâce Matinée constitue une bonne synthèse des caractéristiques de son théâtre, quoi ? On trouve.
Oui. Je trouve que c'est assez. C'est assez représentatif de son théâtre, parce qu'à la fois, il y a une vraie dimension poétique, philosophique aussi, mystique, parce qu'il y a quand même une question permanente sur la vie, la mort, tout au long de la pièce. Il se pose les vraies questions, et à la fois, l'humour, toujours l'humour, quoi. C'est que ça ne peut pas s'empêcher d'être drôle, même en traitant de sujets comme la mort.
Oui, et ce qui est quand même assez étonnant, c'est que, sous des apparences parfois loufoques, c'est avec beaucoup de finesse qu'il pose les questions graves. Hein, je pense que on a rarement l'occasion de voir exprimer d'une façon aussi forte ce que peut être la solitude définitive ou pas, d'ailleurs. Hein. Mmh. Également le thème de la métampsychose. Là, tout à coup, on dit, tiens, si ça nous pend au nez, c'est quand même... il a vraiment un univers à lui, quoi. Là. L'attente indéfinie de la décision d'être envoyé ou non en enfer, tout à coup, on prend une perception du temps qu'on n'a pas jusque-là. Ce sont les grands créateurs, quoi. D'avoir un univers à eux qui vient élargir le nôtre.
Mais je pense à Beckett aussi dans cette pièce, en attendant Godot, parce qu'en fait, finalement, c'est une pièce sur l'attente, parce que ces deux défuntes, ces deux squelettes attendent, on ne sait pas ce qu'elles attendent, elles espèrent qu'il se passe quelque chose, qu'on n'attend pas tout ça, enfin tout ce temps, on n'attend pas tout ça pour rien, quoi. Pour rappeler vite fait le sujet de la pièce, à savoir que c'est donc deux voisines de cercueil, deux squelettes qui se retrouvent dans un cimetière à attendre le jugement dernier, quelque part. Alors on pourrait s'imaginer, c'est une forme de purgatoire, en fait, elles attendent qu'est-ce qui va se passer après. Mais elles espéraient, en pensant, en mourant, qu'il allait se passer quelque chose, mais il ne se passe absolument rien. Elles sont là à attendre et à compter les trains qui passent.
Et en plus, elles sont toutes seules.
Oui, elles sont toutes seules.
Toutes les deux dans le cimetière, il n'y a plus personne.
Ouais, elles espéraient rencontrer d'autres morts, d'autres voisins de cercueil, mais pas du tout, non, non. Mmh. Non
Alors, quand vous disiez tout à l'heure que c'est une vision sombre, je pense que M. Kleps donne aussi l'illustration parfaite de cela, ne serait-ce qu'à travers la première formule, hein, quand Bouquet... monter en scène et qu'il disait la première phrase, on ne peut pas dire que ça s'améliore. Donc on peut dire qu'Obalia a une vision de notre société qui...
assez sombre.
Hein, c'est sombre. Hein.
Ouais,
c'est
assez
on ne peut
sombre.
Pas dire que ça s'améliore, paf.
Non, là pour ça, pour le côtoyer régulièrement dans la vie, c'est quelqu'un qui a une grande nostalgie d'une humanité qui... il avait d'autres ambitions pour l'humanité. Voilà.
Oui, alors on ne peut pas parler à son sujet parce qu'il a tellement de recul par rapport à lui-même qu'on ne peut pas dire, vous savez, cette phrase bateau, l'humour, politesse du désespoir, On ne peut pas dire
non,
ça pour lui.
Non, non, et hein. En plus, ce serait le trahir, oui. Parce que moi, j'ai toujours pensé...
C'est pas du désespoir, d'ailleurs.
Non, il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas de... Parce que c'est quelqu'un qui est très gai, de très vivant dans la vie, curieusement. C'est quelqu'un qui, en fait, qui, finalement, il y a un cynisme, mais aussi une vraie gaieté. C'est un bon vivant, il aime boire, il aime manger, il aime vivre, il aime les femmes, les enfants. Enfin, c'est un homme qui aime la vie.
Oui, il est animé, quoi, voilà. Quelque part, à tous les sens du terme. Et on parle très peu, aujourd'hui, de ses romans, hein. Tamerlan, Fugue à Waterloo, Le Centenaire.
Oui, c'est dommage.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que c'est long, c'est vieux, hein, c'est toujours pareil. Ça fait un moment qu'il n'a plus écrit de roman. C'est une longue carrière, parce qu'il a commencé...
Parce que Tamerlan, c'est 1955.
Voilà, c'est ça. C'est loin, tout ça. Et alors que Exobiographie, c'est un bijou. Hein,
c'est le dernier, ça.
Oui, c'est le dernier qu'il a écrit. Et c'est un véritable bijou, parce qu'il s'essaye à l'exercice de la biographie. Mais finalement, il dérape très rapidement. Mais il dresse un tableau de lui, mais en fait, qui n'est pas lui. Enfin, bon, c'est très particulier comme livre. Mais moi, j'ai vraiment adoré ce bouquin.
Est-ce que vous saviez qu'il avait écrit des chansons pour Luis Mariano ?
Oui, oui, je savais qu'il avait été chansonnier. Enfin, qu'il a écrit pas mal de chansons de texte.
Vous vous souvenez des chansons en
particulier ? Non, je ne me souviens pas de texte en particulier. Enfin, de chansons en particulier, mais il en a écrit beaucoup. Il a commencé comme ça. Il a vraiment commencé en écrivant des chansons pour
et
les autres.
Et quand il en parle, qu'est-ce qu'il dit de...
Ça l'amuse.
Ça l'amuse.
Ah oui, ça l'amuse.
Il le renie pas, quoi.
Ah, pas du tout, non, au contraire. Non, mais il fallait bien vivre, hein. Fallait bien. Il n'avait pas d'argent au départ quand il a commencé dans sa chambre de bonne. Quand il est rentré, parce qu'il a été prisonnier de guerre, quand il est rentré en fait d'Allemagne en fait.
Du Stalag.
Il a
passé 4 ans quand même.
Oui, ouais, c'est quand même une sacrée tranche de vie. Et puis après, il s'est retrouvé en fait à Paris, dans une petite chambre de bonne, et puis il a vécu réellement d'amour et d'eau fraîche.
Oui, curieusement, donc, d'ailleurs, il l'a choisi, parce qu'il a commencé par publier de la poésie. Hein. C'était en 1946, un recueil qui s'appelait Midi.
Oui, c'est mal barré.
En plus, c'était assez surréaliste, hein, il faut le dire.
Oui, oui.
Bon, alors non, ça, pour gagner de l'argent...
C'est le poète maudit. Et donc, il a fallu à un moment donné qu'il trouve un moyen pour gagner sa vie, et les chansons sont arrivées à...
Mais est-ce qu'on peut dire que même dans son théâtre, c'est la poésie qui domine, quoi, ne serait-ce qu'à travers une langue, langue écrite quand même.
C'est une langue très travaillée, très laborieuse. Il y a une vraie souffrance dans l'écriture chez Obalia. C'est pas quelqu'un qui écrit comme il respire, loin de là. C'est quelqu'un, et ça on en parle souvent, c'est que pour lui, ça lui coûte d'écrire. C'est une vraie souffrance parce qu'il a besoin de passer par une forme... très travaillé, très élaboré en fait.
Et tout ça pour parler quand même de choses très quotidiennes, très simples.
Ouais,
c'est ça la force.
Ouais, c'est la force. Ouais.
Mais alors pour vous, metteur en scène, quand on est face à un texte pareil, c'est quand même difficile. Ça,
ouais, c'est pas facile.
Comment dire du Obaldia ?
C'est pas évident. Ça demande réellement une... Et tout le monde ne peut pas dire du Obaldia. Tous les acteurs n'ont pas cette...
Qui peut le mieux dans tous ceux que vous avez, avec qui vous avez travaillé et tout ça ? Ça demande quelle qualité, en fait ?
Déjà, il faut avoir beaucoup d'humour. Il faut avoir un véritable sens de la comédie, sinon... Et avoir une vraie technique, parce qu'à la fois, il faut faire passer le texte, parce qu'il n'est pas évident non plus. C'est toujours comme toute poésie, il faut une technique pour faire passer le sens et la musicalité des mots. Et en plus, il faut avoir de l'humour... Et puis, il faut aussi s'impliquer réellement, parce qu'il y a aussi des émotions, il y a un travail d'incarnation. Non, c'est pas évident. C'est pas évident.
Il y a des formules, quand même. La définition du corbeau dans Grasse matinée, vous vous souvenez de la définition du corbeau ?
Mais il y en a plusieurs, donc...
Paquet de ténèbres crochues.
Ouais.
Il faut quand même le faire, ça.
Ouais, c'est vrai. C'est très imagé.
C'est beau.
Il y a beaucoup d'images tout le temps.
Ouais. Alors, il y a la poésie des mots, et puis il y a la poésie de l'atmosphère. Et là, votre rôle de metteur en scène est évidemment essentiel. Et le moment peut-être le plus fort de cette pièce, c'est l'image finale. Dans la brume du soir, le squelette va prendre le train qui va enfin le conduire vers son éternité. Et tout à coup, ça nous prend à l'estomac, quoi. On se dit, tiens, mais c'est peut-être nous.
Oui.
Et ça se passera peut-être comme ça.
Oui,
curieusement, dans quelque chose qui confine la folie, on se dit, ce sera peut-être notre réalité.
Il y a toujours cette dimension tragique dans Obaldia, en fait. Il y a un moment donné, on pourrait le monter très léger. Très, très léger, très drôle. Et moi, j'aime aussi, de temps en temps, derrière, quand la tragédie pointe, en fait, légèrement derrière, frissonne. Et moi, j'aime bien mettre cet accent tragique en exergue, en fait, dans la mise en scène. Lui, pas forcément, hein. Lui est plutôt contre, en fait, cette dimension tragique, notamment à la fin de la pièce.
Donc, il n'a pas aimé que vous fassiez cela à la fin ?
Non, non, il n'aime pas cette séparation. Parce que moi, je joue vraiment comme une séparation tragique. Parce qu'à un moment donné, quand Babette se retrouve toute seule, séparée, en fait, d'Artémie, parce qu'au départ, elles ne sont pas de très bonnes copines. Hein. Et puis, petit à petit, elles s'apprivoisent. Et puis, elles s'aiment, elles s'apprécient. Et elles ne peuvent plus se passer l'une de l'autre. Et j'aime bien ce déchirement. Du coup, quand Artémie, finalement, arrive à partir, parce qu'elle est, ça fait tellement d'années qu'elle attend ce moment-là, donc elle est heureuse de partir, mais Babette, elle ne supporte pas cette séparation. Donc c'est vrai que j'aime cette tragédie à la fin. Il y a toujours ça dans, dans son texte.
Et en même temps, ça nous amène chacun à nous poser la question. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'en réalité, ce qu'il y a de plus fort chez lui, c'est cette valeur créative de l'imaginaire, quoi, qui bouscule tout.
Oui, parce qu'en fait, il faut pas le prendre, le texte. Il nous amène ailleurs, toujours. Moi, ce que je trouve formidable dans cette pièce, notamment Grâce Matinée, mais dans toutes les autres, c'est qu'il y a toujours, à un moment donné, même avec l'humour, il arrive à nous faire réfléchir. Moi, ça me fascine parce que l'air de rien, il nous amène, en fait, petit à petit, dans une vraie dimension philosophique. Et il nous permet d'aborder certaines vraies questions fondamentales à travers un humour, une légèreté, sans y toucher. Et ça, je trouve ça fort.
C'est peut-être cette formule, au fond, qui définit le mieux l'air de rien.
Oui. Ouais, parce qu'il y a cette grâce, il y a toujours une élégance chez Obalia que j'aime, dans la vie d'ailleurs, comme dans la vie, comme dans son écriture, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui va donner des leçons, jamais. Il n'est jamais lourd, même dans sa façon de penser, même dans sa façon de... Il y a toujours, même dans ses idées les plus fortes, même quand on parle de la vie, de la mort, eh bien, il va garder une certaine... quelque chose de très anglo-saxon, finalement.
Et Dieu sait si pourtant il a commencé les années 50-55 à une époque de lourdeur et de pesanteur culturelle et intellectuelle.
Ouais.
C'est une grâce qu'il ait pu échapper à ça, lui.
Oui, c'est vrai qu'il s'appelle l'existentialisme.
Oui, bon, c'est quand
mais,
même...
Non, mais il a échappé effectivement à toute cette... Non, mais c'est vrai qu'il est étonnant, c'est pour ça qu'il est encore d'ailleurs aujourd'hui, pour moi, je trouve très contemporain. Il a traversé en fait tout le siècle assez... Je le trouve encore très vivant, très, très actuel.
À un moment où on se pose la question de l'identité nationale, redécouvrir la force des mots et...
Ouais.
Et la façon de jouer avec
les mots. C'est un véritable auteur. Hein. C'est un auteur, un poète, mais un auteur. C'est ça. On a de moins en moins, c'est tellement travaillé, on a de moins en moins d'auteurs comme ça qui ont cette capacité à jouer avec les mots tout en étant à la fois réaliste et quotidien. C'est ça qui est incroyable. C'est que ça reste quotidien.
Vous disiez tout à l'heure, donc, tout son théâtre posait des questions essentielles sur la vie. Bon, il a 91 ans, vous le connaissez très bien, sans trahir de secret intime. Est-ce que lui se pose la question de savoir si la vie a un sens ou pas ? Est-ce qu'il a une réponse à ça,
Alors, ça
aujourd'hui ?
C'est
vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein.
Non, mais c'est intéressant parce que moi, je pense... c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion avec lui. J'ai toujours pensé qu'il avait effectivement... il y a un côté un peu nihiliste comme ça. C'est que, après tout, pourquoi tout ça ? Tout ça n'a aucun sens. Moi, j'ai toujours pensé qu'il avait cet abord de la vie. Et pas du tout, en fait. Après avoir discuté avec lui, mais pas du tout.
Il se défend de ça.
Il se défend de tout nihilisme. Et moi, je le trouvais assez proche, finalement, des Monty Python. Parce que moi, j'ai eu la chance de beaucoup travailler, en fait, sur les Monty Python. Et c'est sur The Meaning of Life, justement, sur le sens de la vie. Et eux partent du principe que tout ça n'a absolument aucun sens. Et pour justement, autant en rire, plutôt que d'en pleurer. Donc, autant en rire de tout. Et moi, j'avais cette impression-là d'Obaldia, c'est que puisque tout ça n'a aucun sens, autant rire. Mais pas du tout, non, il se défend de ça.
Mais est-ce qu'il prend aujourd'hui, donc 91 ans, est-ce qu'il prend les années qui sont là comme un cadeau ou...
Oui. Ah, ouais.
C'est pas une charge, quoi.
C'est vraiment pas une charge.
Tant qu'il pourra.
Tant qu'il peut vivre, tant qu'il peut profiter de la vie, et il en profite, croyez-moi.
Mais il a des projets encore
Ah oui, il aimerait pouvoir. Mais ça, c'est toujours terrible. C'est terrible, parce que. Mais il y a beaucoup d'humour aussi par rapport à ça. Mais ce que même quand on parle de projets, même de théâtre, parce qu'on envisage encore de monter des choses ensemble, mais est-ce que je serai encore là demain?
Mais, et ça, toujours en souriant, quoi.
Toujours en souriant, oui. Ouais.
Comment expliquez-vous cette chose quand même extraordinaire et fabuleuse qu'il soit monté sur scène à 90 ans, mais pas pour une soirée, hein ? Et apparemment, ce que vous me disiez tout à l'heure, il rempile.
Ouais, mais moi, c'est venu d'une conversion qu'on a eue tous les deux. J'ai cette prétention-là de le dire, parce que c'est drôle, parce qu'à un moment donné, René se plaignait, à juste titre d'ailleurs, qu'il n'était pas monté. Je ne comprends pas, je ne suis pas monté, pourquoi on ne me monte pas plus, etc. Et puis, à un moment donné, je me dis, mais c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, on veut des vedettes, on veut des stars, c'est qu'on veut tout le temps, il faut trouver des noms. Et sinon, on n'arrive pas à trouver un théâtre. Et puis, je lui dis, mais René, l'idéal serait que vous montiez sur scène. C'est qu'après tout, vous êtes un nom, René, et je suis sûr que ça marcherait. Et puis, en plus, moi, j'ai toujours trouvé qu'il lisait merveilleusement bien ses textes.
Sans être un comédien, hein.
Il n'a jamais été comédien. Mais c'est un très bon lecteur. Il a de l'humour, il est drôle. Je lui dis, mais faites monter sur scène. Et on avait essayé à l'époque déjà, on fait un montage de meilleurs extraits de vos romans, de vos poésies, de vos pièces de théâtre, et on fait un petit spectacle comme ça. Et c'est, l'idée est venue comme ça.
Et ça marche très bien.
Et ça marche très bien.
Et il va partir en province avec ça ?
Oui, il va faire une tournée avec ça.
91 ans ?
Mais oui.
Partir en province. Alors, il a été élu à l'Académie française en 99. Très franchement, qu'est-ce que ça représente pour lui ? Il avait 81 ans, hein, si j'ai bien
Ça fait donc déjà 10 ans, une reconnaissance. Je pense que c'est très important pour tous ces messieurs de l'Académie française. C'est qu'à un moment donné, on travaille tout seul dans notre coin. Pendant des années, on œuvre pour la langue française. Et puis petit à petit, on a besoin d'encouragement. C'est comme un encouragement, c'est une reconnaissance. Et c'est important. C'est important que ces hommes-là soient reconnus pour ce qu'ils ont pu faire pour la langue française, pour la littérature. Je suis ravi, moi, qu'il y soit, parce que ça lui permet de... En plus de rencontrer des gens formidables, d'horizons très différents, et avec qui il a beaucoup sympathisé, d'ailleurs, certains sont devenus des amis. Non, moi je trouve que c'est merveilleux pour lui, c'est merveilleux pour nous aussi, parce que je trouve que ces gens-là continuent à faire rayonner la langue française à travers la France, à travers le monde.
Et vous me disiez l'autre jour qu'il avait été très sensible, on n'y pense pas à ça, hein, à l'uniforme en fait.
Ah oui, oui, mais lui il adore ça. C'est rigolo parce que il a un père panaméen, donc et puis un grand-père général.
Oui. Et puis avant, il y avait un Obaldia qui avait été gouverneur du pays, même président de Colombie.
Exactement.
Donc il y a une habitude de l'uniforme.
Oui, voilà, il a toujours été fasciné par les uniformes. Puis il a lui-même porté un uniforme militaire parce qu'il a été soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, non, c'est pour ça que ça l'amuse beaucoup. Non, non, ça le fait beaucoup rire en fait. Et alors, il a beaucoup de médailles aussi.
Ouais.
C'est un des hommes les plus médaillés de France.
Ah bon ?
Et oui.
Mais quel genre
de médailles ?
Il y a
beaucoup de médailles du Panama. Il a reçu énormément de médailles déjà pendant la guerre, mais aussi du Panama aussi. Donc c'est pour ça que ça le fait beaucoup rire, ces médailles, les épées, les uniformes.
Alors il y a l'aspect évidemment assez drôle, conquistador, gouverneur, général, consul, et tout ça, ça c'est côté paternel. Mais côté maternel, sa mère est une Française de famille assez simple. Son père était caissier des magasins du printemps. Sa mère était picarde. Il est marqué par cet aspect-là où, parce qu'on n'envisage pas un Obaldia picard, quoi, enraciné avec une mère qui est fils de caissier.
Non, mais il y a en fait chez lui ces deux aspects d'ailleurs, même dans son théâtre, même dans sa littérature. C'est qu'à la fois, c'est pour ça que je ne compare pas au Ionesco, parce qu'à la fois il y a un personnage très ancré, c'est qu'il est toujours ancré dans la terre, et un imaginaire complètement fou. Et c'est vrai que...
Et donc là, il y a papa et maman, là.
Mais oui, il y a ce côté panaméen qui le fait rêver, en fait. C'est le fait d'être né à Hong Kong, d'un père panaméen. Il y a tout,
qui a disparu très vite, le père.
Oui, hein. Qui a disparu très vite, oui. En plus, qui se croyait fumer de l'opium, enfin, qui a disparu, en fait, dans des fumoirs d'opium à travers la Chine. Enfin, on ne sait pas trop. Il ne l'a jamais revu, je crois. Mais non, c'est quand même un destin très étrange, quoi.
Oui, il est élevé par une nourrice en banlieue. Enfin, c'est pas non plus très simple.
Oui, et puis c'est la nourrice chinoise qui lui sauve la vie en plus à la naissance. Parce qu'en fait, il est condamné par sa mère en fait, à la première année de sa naissance. Et cette nourrice chinoise qui va le sauver et qui va s'en occuper en fait pendant plus d'un an. Et quand il part, à ce moment, quand il quitte la Chine, il était encore très faible. Et c'est étonnant que cet enfant, qui était en fait d'une santé très fragile.
Alors là, on plaisante un petit peu par rapport à cet itinéraire très, très curieux, quand même, assez extraordinaire. Mais ce que vous évoquiez tout à l'heure et qui est d'un tout autre niveau, il a pris très à cœur son rôle de Français au moment de la guerre. Enfin, il a carrément déclaré la guerre à Hitler.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, il se compare... il se compare pas, loin de là, ce serait absurde de dire ça, mais il aime Don Quichotte. Je crois qu'il aime les combats contre... D'ailleurs, c'est des moulins à vent, peut-être, mais même, en tout cas, il continuera à se battre quoi qu'il arrive, contre la bêtise, quelle qu'elle soit. Là, elle était personnifiée par Hitler, mais c'était avant tout la bêtise qu'il allait combattre. Et ce qui était drôle, parce que c'est moi-même qui suis breton, ce qui l'amusait, c'est qu'il s'est retrouvé en fait enrôlé en fait, avec les bretons. Il s'est retrouvé chez les bretons pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il parlait breton un peu ?
Non, peut-être oui, il a dû apprendre quelques mots en breton. Mais...
Baragouiné, comme on disait pendant la guerre
14-18. Non, mais c'est un drôle de destin, c'est une drôle de vie.
Hein. Oui. Mais enfin, les 4 ans de Stalag, c'était quelque chose de pas très drôle, mais ça a profondément marqué son tempérament et son œuvre, ça.
Ça a été aussi des moments très forts. Enfin, moi, le peu que j'ai pu en parler avec lui, mais c'est une fraternité, surtout de fraternité.
D'autant que c'est une époque où il ne connaissait pas l'existence des camps d'extermination et tout ça. Enfin, c'est assez étonnant. Et il le dit lui-même quand il a découvert ça après.
Après, ouais, après.
Ouais, c'est assez... Le tragique est là dans ça.
Sa... Ouais, ouais. Toujours. Toujours. C'est pour ça qu'il y a toujours un fond tragique, toujours.
Alors, vous vous intéressez donc à Obadiah, et c'est un euphémisme. Quand on regarde votre carrière, vous avez fait jouer du Racine, du Shakespeare, du Corneille, mais aussi donc du Feydeau, mais vous avez monté Vol au-dessus d'un nuit de coucou, le portrait de Dorian Gray, au Café Théâtre Arrête de pleurer Pénélope, le one-man show Les Hommes viennent de Mars. Enfin, ce que vous aimez avant tout, c'est de pouvoir créer des univers les plus divers possibles, c'est ça ? Vous avez besoin de ça ? Que c'est rare quand même, un tel éclectisme.
Oui, c'est vrai que c'est assez rare de pouvoir... j'aime toucher à tout. Moi, j'aime raconter des histoires, avant tout. Voilà, je suis un conteur. Avec les moyens... là où j'excelle le plus, je pense, c'est justement dans l'idée de raconter les histoires. D'avoir les... Et j'aime après utiliser tous les moyens possibles, imaginables, pour faire passer, pour émouvoir, pour faire rire. Pour moi, faire rire et faire pleurer, c'est une émotion. Quoi qu'il arrive, c'est de faire passer une émotion. Que ce soit par le rire ou par les larmes, c'est la même chose, c'est le même boulot. Après, avec des techniques différentes. Mais après, on peut utiliser... et j'aime pouvoir utiliser aussi bien des couleurs, un costume, un décor, un éclairage particulier, le travail avec des acteurs, tout ça, tout est riche d'enseignements. Enfin, tout est riche de... J'apprends tous les jours, voilà, j'apprends tous les jours.
Mais la frontière classique, non classique, pour vous, ça n'a pas tellement de sens.
Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, vous le disiez très bien tout à l'heure, c'est que même dans Obadiah, qui est un auteur comique par excellence, il y a toujours un fond tragique. Et on peut toucher l'émotion même à travers le rire, à travers le... On touche des émotions même souvent plus profondes. Et même tantôt, ça nous amène à aussi des réflexions aussi très profondes, l'humour, le rire et les larmes. Voilà, pour moi la vie est complexe, enfin la vie est, ce n'est pas que des larmes, ce n'est pas que du rire, c'est voilà, c'est tout. Moi, c'est ce mélange là qui m'intéresse. Et en plus, je trouve que c'est toujours triste de chapelliser, enfin de ranger dans des tiroirs, de mettre des étiquettes sur une forme plutôt qu'une de théâtre plutôt qu'une autre.
Ça, c'est très français quand même.
Ouais, ouais. Et c'est triste parce que du coup, en fait, on passe à côté de plein de choses, hein, toujours. Croyez-moi, c'est un bonheur de rire, mais de rire, vraiment rire. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir rire vraiment.
Vous savez ce que disent les Espagnols ? Méfiez-vous des gens tristes, ils sont rarement sérieux.
Ouais. Mais oui, parce que... Et le théâtre offre les plus grosses parties de rigolade que j'ai eues, c'était au théâtre. Le cinéma, la littérature, il n'y a pas ça. On ne pourra jamais autant...
Pourquoi ?
Mais parce que c'est simple. C'est simple, le plus grand rire naît d'une émulation. C'est qu'il faut déjà être nombreux pour rire. C'était un rire en cascade, on parle du rire en cascade, mais c'est parce qu'il y a l'acteur qui est là, qui est en chair et en os, qui va réagir en fonction de notre propre rire, nous spectateurs, nous publics. Et le rire va enchaîner et s'enchaîner les uns avec les autres, avec l'acteur, les autres spectateurs. Et c'est pour ça que le théâtre existera toujours. Il ne faut pas s'inquiéter pour le théâtre, parce qu'il existera toujours, parce que ce rire qu'on a au théâtre, on n'aura jamais nulle part ailleurs.
Vous voulez dire que c'est l'endroit privilégié d'une communion, enfin, pour voilà. Employer un terme presque religieux.
Complètement.
C'est ça la magie du théâtre, la communion.
Oui, alors que l'émotion... Curieusement, on aura plus d'émotions dans une salle de cinéma parce que on est presque à la messe. Il y a une espèce de recueillement, on est dans le noir total, on est vraiment plus dans une intimité avec nous-mêmes, on est plus connecté avec nos émotions. Alors qu'au théâtre, on est plus serré, on est beaucoup plus serré, on est plus les uns sur les autres. Et la littérature aussi offre des émotions. Moi, je pleure aussi en lisant un livre, je ris aussi en lisant un livre, mais le rire qu'on a au théâtre, il est aussi développé par le rire des autres. C'est ça que c'est en cela que c'est merveilleux le théâtre.
Et en même temps, vous aimez bien diriger des êtres, quoi. C'est étonnant, vous êtes très jeune et très tôt, vous avez dirigé quand même des acteurs connus. Qu'est-ce qui vous pousse à cela ?
Moi, au départ, j'étais comédien d'origine. Mais très vite, je me suis rendu compte que j'adore jouer. Hein. Je continue à jouer de temps en temps quand d'autres metteurs en scène pensent à moi. Mais j'ai un vrai plaisir à faire travailler les autres. Voilà. Mettre en scène les autres, à les diriger, à les mettre en valeur.
Vous avez réfléchi à la logique de ce comportement ? Enfin, qu'est-ce qui vous pousse à ça ? C'est pas le pouvoir. C'est
autre chose. Non.
Vous êtes un peu Pygmalion, c'est ça ?
Pygmalion, oui, c'est vrai. Non, mais en fait, je suis un homme de troupe avant tout. Hein. J'aime pas travailler seul. Donc déjà, je ne suis pas un solitaire. Et même quand je me suis essayé à 2-3 reprises dans ma carrière d'écrire, même écrire seul m'ennuie. J'ai besoin d'écrire à plusieurs. Alors à 2 minimum. Et donc, en fait, j'aime en fait cette ambiance de troupe. Je travaille toujours dans le plaisir. Les comédiens sont des gens souvent très drôles. Il faut le savoir aussi. Et j'aime cette ambiance de plateau, de répétition, où on s'essaye des choses, on en rigole. Et c'est vrai que ça manque toujours, le plateau, pour ça.
Ce qui veut dire que vous êtes un saltimbanque, quoi, pour employer un mot.
Voilà, je suis un vrai saltimbanque. Et c'est pour ça que j'aime bien passer d'un univers à l'autre. C'est aussi parce que, tout d'un coup, je suis assez contemplatif. Je suis un peu un enfant pour ça, j'ai un gamin. Je m'émerveille assez facilement, en fait, de choses que je ne connais pas.
Il vous manque le cinéma, là.
Ouais, mais j'y travaille, hein. J'y travaille en ce moment.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire ?
On m'avait déjà demandé de réaliser un long métrage il y a quelques années. Et je m'étais essayé, en fait, à cet exercice-là. Pendant 8 mois, j'étais engagé par une production. D'ailleurs, j'ai été très bien payé, mais malheureusement, le film ne s'est pas monté. Donc, j'étais très malheureux. Mais bon, à la fois, j'ai appris beaucoup de choses. Et là, on me demande à nouveau de réaliser un long métrage, un scénario que je n'ai pas écrit, qu'une comédie. Et puis, j'ai écrit un scénario long métrage également. Donc, j'ai envie. J'ai réalisé un court métrage qui a très bien marché. Et puis là, j'ai aussi réalisé deux pilotes pour la télé. Non, ça vient, hein, tout doucement. Mais bon, le théâtre me prend beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, c'est très difficile de dire non. J'ai beaucoup de mal à dire non. Donc, les projets arrivent tous les uns après les autres sur ma table. Et puis, ils sont tous plein de projets merveilleux. C'est très difficile de tout faire. Donc, j'essaye de temps en temps dire non, de faire des choix. Mais c'est très dur pour moi.
C'est un luxe, hein, d'en être réduit à dire non.
Ouais, mais c'est j'ai la chance aujourd'hui de faire encore, d'arriver à faire de faire des choix, de pouvoir faire des choix. Et puis, mais moi j'adore ici les gros projets, c'est toujours excitant. Là, on me propose de faire une comédie musicale sur Mike Brandt, sur la vie de Mike Brandt, qu'on va démarrer la saison prochaine au Théâtre Comédia. Oh, ça, j'adore, parce que là, tout d'un coup, on se trouve avec 15 comédiens, des musiciens, des danseurs. Voilà. Après, moi, j'aime aussi ce genre de projet qui n'est absolument pas du tout... qui s'éloigne de projets comme là, Grâce Matinée de Baldia, avec juste 2 comédiennes.
Mais comment faites-vous, oui, quand vous lancez, au mois de septembre, Grâce Matinée, comment faites-vous pour suivre la pièce ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est là tous les jours, quelqu'un qui vient toutes les semaines, quelqu'un qui...
Non, au début, je suis très présent. Sur les 15 premiers jours, je suis très présent parce que je continue à travailler même pendant les représentations. J'aime bien corriger encore des choses avec le public. Après, après, c'est en fonction de... Ça dépend. Tu as des acteurs qui décalent plus que d'autres. Donc, du coup, je suis plus présent. J'y vais toutes les semaines. Et après, tu as des acteurs qui ne changent rien, qui sont très, très réguliers. Et à ce moment-là, ce n'est pas la peine d'y aller.
Et là, en l'occurrence, pour Grâce Matinée ?
Là, pour Grâce Matinée, sur des acteurs... deux actrices qui sont très régulières, donc j'ai pas une grande nécessité à être là, à être très présent, mais là j'y vais pour le plaisir aussi de retrouver les comédiennes. Elles ont besoin aussi d'avoir un regard extérieur, donc j'y vais aussi assez régulièrement pour histoire de c'est sympathique.
Ouais. Mais s'il n'y avait qu'une chose, hein, c'est une colle, hein, s'il n'y avait qu'une chose à retenir de l'apport de René de Obalia comme écrivain, vous qu'est-ce que vous diriez?
Oh, moi je parlerais de ses impromptus. Moi, je l'encourage toujours à écrire des petits... D'ailleurs, il a écrit, c'est la dernière chose qu'il a écrite et qui ont été éditées là, chez Grasset à nouveau, et de nouveaux impromptus. Moi, j'aime cette capacité qu'il a, en fait, en très peu de temps, en fait, parce que ça peut durer, même certains impromptus, en fait, font quelques pages. Hein. Voilà, c'est de dessiner, en fait, 2-3 personnages, d'une situation, avec beaucoup de finesse, de légèreté, d'humour, et à la fois, ça va droit au cœur. Non, voilà, moi, c'est avant tout ça. Pour moi, c'est impromptu. Et moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir avec René, avec sa complicité. On a fait un montage qui s'appelait L'amour à 3. C'était composé en grande partie de 3 impromptus, dont Pour ses beaux yeux et Le grand vizir. Et donc, c'était un petit montage. Et c'était vraiment sur le couple, sur la relation homme-femme, amant, maîtresse. Voilà. Je trouve qu'il excelle là-dedans. Moi, j'aime beaucoup ce regard qu'il a sur le couple, sur le trio à l'amant, la femme et le mari.
Oui, c'est un trio qu'on connaît bien dans le théâtre. Et puisque vous parlez d'humour, moi, j'ajouterais cette grâce avec laquelle, justement, il utilise l'humour et la dérision pour apprivoiser toutes nos angoisses. Je crois que c'est fondamental chez lui. Je pense à cette confidence faite il n'y a pas longtemps à Jacques Nerson, à qui il a cité ce mot de Chesterton que vous devez connaître. « Si les anges volent, c'est parce qu'ils se prennent eux-mêmes à la légère. »
Ouais, c'est tout à fait... ça résume bien Obalia.
Thomas Ledoirec, merci. Je rappelle donc que vous venez de monter au Théâtre des Mathurins un 4e spectacle au Baldia, donc la reprise d'une comédie intitulée Grâce Matinée et interprétée par Cyrielle Claire et Marie Lecam, qui restera à l'affiche jusqu'au 31 décembre 2009. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.